Lettre 123 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Paris, lundi 5 février 1674. Il y a aujourd'hui bien des années, ma fille, qu'il vint au monde une créature destinée à vous aimer, préférablement à toute chose. Je prie votre imagination de n'aller ni à droite ni à gauche. Cet homme-là, sire, c'était moi-même. Il y eut hier 3 ans que j'eus une des plus sensibles douleurs de ma vie. Vous partîtes pour la Provence où vous êtes encore. Ma lettre serait longue si je voulais vous expliquer toutes les amertumes que je sentis et que j'ai senties depuis en conséquence de cette première. Mais revenons. Je n'ai point reçu de vos lettres aujourd'hui. Je ne sais s'il m'en viendra. Je ne le crois pas, il est trop tard. J'en attendais cependant avec impatience. Je voulais apprendre votre départ d'Aix afin de pouvoir supputer un peu juste votre retour. Tout le monde m'en assassine et je ne sais que répondre. Je ne pense qu'à vous et à votre voyage. Si je reçois de vos lettres après avoir envoyé celle-ci, soyez en repos. Je ferai assurément tout ce que vous me manderez. Je vous écris aujourd'hui un peu plus tôt qu'à l'ordinaire. Monsieur de Corbinel et Mademoiselle de Méry sont ici qui ont dîné avec moi. Je m'en vais à un petit opéra de Molière, Beau-père d'Itier, qui se chante chez Pélissari. C'est une musique très parfaite. Monsieur le prince, monsieur le duc et madame la duchesse y seront. Je m'en irai peut-être de là souper chez Gourville avec madame de Lafayette, monsieur le duc, madame de Thianges, monsieur de Vivonne, à qui l'on dit adieu et qui s'en va demain. Si cette partie est rompue, j'irai chez madame de Chaune. J'en suis extrêmement priée par la maîtresse du logis et par les cardinaux de Rez et de Bouillon qui me l'avaient fait promettre. Le premier est dans une extrême impatience de vous voir. Il vous aime chèrement. Voici une lettre qu'il m'envoie. On avait cru que mademoiselle de Blois avait la petite vérole, mais cela n'est pas. On ne parle point des nouvelles d'Angleterre. Cela fait juger qu'elles ne sont pas bonnes. Il n'y a eu qu'un bal ou deux à Paris dans tout ce carnaval. On y a vu quelques masques, mais peu. La tristesse est grande. Les assemblées de Saint-Germain sont des mortifications pour le roi et seulement pour marquer la cadence du carnaval. Le père Bourdaloue fit un serment le jour de Notre-Dame qui transporta tout le monde. Il était d'une force à faire trembler les courtisans et jamais prédicateur évangélique n'a prêché si hautement ni si généreusement les vérités chrétiennes. Il était question de faire voir que toute puissance doit être soumise à la loi, à l'exemple de notre Seigneur qui fut présenté au temple. Enfin, ma fille, cela fut porté au point de la plus haute perfection et certains endroits furent poussés comme les aurait poussés l'apôtre Saint-Paul. L'archevêque de Reims revenait hier fort vite de Saint-Germain. C'était comme un tourbillon. Il croit bien être grand seigneur, mais ses gens le croient encore plus que lui. Il passait au travers de Nanterre, tra-tra-tra. Il rencontre un homme à cheval. Gare, gare! Ce pauvre homme veut se ranger, son cheval ne le veut pas. Et enfin, le carrosse et les 6 chevaux renversent cul par-dessus tête le pauvre homme et le cheval et passent par-dessus, et si bien par-dessus, que le carrosse en fut versé et renversé. En même temps, l'homme et le cheval, au lieu de s'amuser à être roués et estropiés, se relèvent miraculeusement, remontent l'un sur l'autre et s'enfuient et courent encore, pendant que les laquais de l'archevêque et le cocher et l'archevêque même se mettent à crier « Arrête, arrête ce coquin, qu'on lui donne 100 coups !» L'archevêque, en racontant ceci, disait « Si j'avais tenu ce maraud-là, je lui aurais rompu les bras et coupé les oreilles. » Je dînais hier encore chez Gourville avec Madame de Langeron, Madame de Lafayette, Madame de Coulanges, Corbinel, l'abbé Têtu, Briol et mon fils. Votre santé y fut célébrée et un jour pris pour vous y donner à dîner. Adieu, ma très chère et très aimable. Je ne puis vous dire à quel point je vous souhaite. Je m'en vais encore adresser cette lettre à Lyon. J'ai envoyé les 2 premières au chamarier. Il me semble que vous devez y être ou jamais. Je reçois dans ce moment votre lettre du 28. Elle me ravit. Ne craignez point, ma bonne, que ma joie se refroidisse. Je ne suis occupée que de cette joie sensible de vous voir et de vous recevoir et de vous embrasser, avec des sentiments et des manières d'aimer qui sont d'une étoffe au-dessus du commun et même de ce que l'on estime le plus.